voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Sophie Latapie fait partie de ces personnes en quête de sens et décide de faire ce qu'elle aime pour être en accord avec les valeurs qu'elle porte. Pour la voix du Kaizen, elle revient sur sa crise de la quarantaine. Alors Sophie, j'ai lu quelque part « La créativité anime ma vie ».
Oui, en effet. C'est-à-dire que si je ne m'exprime pas, je meurs. En fait, c'est ça, mon histoire.
Mais ton histoire, c'est un peu plus long que ça, Sophie. J'aimerais que tu te présentes. Tu présentes un petit peu ton parcours et ce que tu es aujourd'hui, ou ce que tu fais aujourd'hui. Ou peut-être qu'il y a un lien entre ce que tu es et ce que tu fais.
Oui, je crois qu'il y a un lien. Alors, mon itinéraire, c'est que j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux. Ensuite, je suis rentrée dans le monde de la mode à Paris. J'ai été dessinatrice textile et graphiste et styliste. Et puis à l'âge de 40 ans, alors que j'étais dans le bio, convaincue depuis que j'ai 15 ans que c'était bien, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour la mode parce que je suis allée sur un salon, je me suis rendu compte que les tissus, on infiltrait des matières dangereuses dans les tissus pour qu'ils soient antitranspirants, antitaches. Et j'ai fait là, ça va pas du tout, je suis pas du tout en accord avec comment je vis et comment je vis les choses. Donc j'ai décidé de commencer la céramique. À l'âge de 40 ans, la crise de la quarantaine, bing. Donc j'ai appris la céramique comme ça, avec un copain qui est en Vendée, et je me suis mis à faire de la céramique.
Donc toi, en fait, ce qui t'a fait changer de vie, c'est vraiment d'être confronté à une incohérence que tu ne pouvais pas cautionner.
Exactement, c'est tout à fait ça. Je me dis, je ne peux plus cautionner ça. C'est tout à fait... ça va à l'encontre de comment je mange, comment je suis en relation avec les autres. En plus, je travaille dans le monde du bébé, beaucoup. Et à la pensée qu'on prenait des tissus, des cotons qui étaient infiltrés de ces saloperies, moi, ça m'a vraiment choqué.
Mais qu'est-ce qui a façonné ton quotidien, tes pensées, tes croyances? Comment est-ce que tu en es venu au bio? Parle-moi un petit peu de toi.
Alors ça, je crois que c'est à l'intérieur de moi depuis très longtemps. Depuis toute petite, le respect de la nature, vivre dans la nature. J'étais une petite fille qui vivait à Paris, mais qui s'échappait chez sa grand-mère en Dordogne et qui était seulement heureuse au milieu des animaux et dans la nature. Donc j'ai déjà... Enfin, quand j'étais petite, c'était ça ma vie. C'était la ville, j'avais du mal à être enfermée entre quatre murs. Par contre, être dans la nature, ça a été très très tôt mon univers en fait.
Est-ce qu'il y a aussi eu un lien entre ton ancienne activité, donc créatrice dans la mode, et la nature? Est-ce que tu as essayé d'associer les deux? Est-ce que déjà tu sentais cette connexion avec ce que tu es et ce que tu faisais?
Alors, si tu veux, pendant cette période-là, c'était entre 25 et 40 ans, on va dire. Ce qui était cohérent pour moi, c'est que j'avais des enfants, j'ai eu des enfants, et ce que je créais, mes enfants le portaient. Donc c'était plutôt, je pensais à ma vie de famille, j'étais une maman créatrice. Donc c'était en relation avec mes enfants. Et bon, tous les thèmes que j'ai pu dessiner quand j'étais dessinatrice textile, ça tournait autour de la nature aussi, les animaux. Mais c'est à 40 ans, tu vois, les enfants grands, voilà, je me suis dit, il y a une incohérence, il y a quelque chose que je dois quitter. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été styliste un temps pour une société angevine pour enfants et je leur ai suggéré de fabriquer avec des tissus bio. Mais c'était il y a plus de 15 ans, ouais, 17 ans même, et c'était pas du tout à la mode à l'époque. Donc j'ai tout lâché, je suis partie.
Et pourquoi changer complètement de secteur d'activité et pas essayer de créer des vêtements à travers des tissus justement équitables et bio?
Parce qu'à l'époque, c'était absolument pas développé. Et puis, ce qui m'est revenu, si tu veux, en commençant la céramique, c'est qu'en fait, depuis que je suis toute petite, je manipule l'argile. Le meilleur ami de mon père était céramiste, donc j'ai baigné dans cette ambiance. Et à 40 ans, ça m'est revenu en pleine figure. Ce goût pour la matière, l'argile, le pétrissage. Et j'ai pris ce tournant-là qui était extrêmement fort pour moi.
Alors, ce que je trouve vraiment superbe, c'est qu'il y a un risque quand on change radicalement de parcours, donc tu passes du statut de salarié pour une boîte ou pour une entreprise au statut de je sais pas trop où je vais. Comment ça se passe quand on crée sa boîte et qu'on essaie d'être en accord avec ses idées, ses ressentis, avec son être intérieur?
En fait, quand j'étais styliste, je n'étais pas salarié. Je n'ai jamais été salarié de ma vie, en fait. Je travaillais dans un atelier parisien qui embauchait des freelances. Donc, j'ai toujours été freelance, en fait. Et puis, tu sais, moi, en tant que personne, je ne pouvais pas continuer le dessin. Je ne pouvais pas continuer comme ça. C'était une grosse crise existentielle. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Parce que si je continuais, ça n'allait pas. Je ne pouvais plus dessiner. Et j'ai pris ce tournant-là sans me poser vraiment de questions. Il fallait que je le fasse, point. C'était vital pour moi. Et ça a marché tout de suite. Et c'est ça qui est génial. C'est que la poterie, la céramique, même si j'étais pas très performante, que j'avais du temps à prendre pour vraiment me former et faire des objets de plus en plus techniquement corrects, mais j'ai dessiné tout de suite dessus et mon style a plu tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma personnalité qui a plu tout de suite. Et ça a marché tout de suite, quoi.
Est-ce que tu sens, moi je pense à céramique ou à poterie, je vois tout de suite le travail de la terre.
Mais c'est ça. C'est un métier qui est millénaire. Quand je travaille l'argile, je suis reliée aux potiers d'abord du monde entier, et puis même aux hommes préhistoriques. Ça va très loin. Ça remonte à très loin, et c'est ça que j'aime. C'est cette profondeur-là et cette connexion des temps anciens, avec les temps anciens. Et ça m'éclate, quoi.
Comment est-ce que tu as développé ton activité dans un système économique qui n'est pas forcément évident aujourd'hui?
Petit pas à petit pas. Et il y a une chose que j'ai fait en parallèle de ma production, c'est j'adore animer, j'adore transmettre. Donc j'ai toujours eu des élèves, j'ai créé des ateliers, je travaille avec des personnes handicapées, j'ai énormément de cordes à mon arc parce que j'aime les personnes, j'aime être en contact avec elles. Donc j'ai une base financière qui est l'animation d'ateliers dans différents endroits, même avec des petits, en crèche, avec des personnes âgées. Enfin, j'ai une population très large au niveau de mes interventions.
Donc aussi le côté transmission et formation et partage.
Oui, ça j'adore ça. J'adore ça. Et puis ce que j'aime particulièrement, c'est voir les personnes s'épanouir dans leur créativité dans mes ateliers. Je leur donne pas des cours parce que c'est pas mon truc. Mais je les aide à développer leur créativité. Et quand je les vois sourire, j'adore ça, quoi. J'aime bien les voir être heureuses avec ce qu'elles ont réalisé.
Tu parles de la crise des 40 ans. Tu choisis de te tourner vers un métier, tu l'as dit, millénaire, le travail de la terre, avec tes mains pour pouvoir façonner ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur ton stand. Est-ce que tu te sens aujourd'hui en cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais? Et pourquoi?
Alors, cohérence à 100%. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je pensais qu'après la crise, entre guillemets, de la quarantaine, enfin le passage, je serais au calme, je serais tranquille. Bien non, là j'ai 56 ans et j'ai de nouveau une évolution qui se fait dans ma vie. Je pratique l'art-thérapie depuis longtemps et je suis en train de continuer à développer la thérapie. Au niveau, avec les sens, avec des outils comme la terre, comme le collage, comme la peinture, comme l'écriture. Donc je suis passionnée aussi de psychologie et je travaille énormément sur moi-même depuis des années. Et donc je rajoute ça à ma créativité.
Quelles sont les grandes questions que tu te poses? Tu es dans cette recherche personnelle finalement à travers ton parcours aussi, c'est ce que je ressens. Quelles sont les difficultés que tu rencontres et les questions que tu te poses?
Alors, les questions que je me pose, moi, si tu veux, ma démarche, c'est d'être au plus près, de plus en plus de moi-même. Mais pas moi-même comme je me suis programmée en fonction de mon enfance, comment j'ai vécu les choses. C'est d'enlever comme des pelures d'oignon pour arriver de plus en plus à être qui je suis et à faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est un long travail d'années et d'années passées en thérapie. Et ce que je cherche, c'est ça. C'est cette petite essence que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, et c'est ce que je fais. J'essaie de faire modestement.
Donc tu as une démarche introspective, mais dans un univers ou dans un monde qui, lui, est bien réel et matériel. Quelle est l'observation, quelle est l'analyse du monde dans lequel tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Et qu'est-ce que tu aimerais changer dans cet univers-là, dans ce monde-là?
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un monde, pour moi, qui est à la fois passionnant. Et je ne vais pas dire le contraire. Il y a des choses passionnantes qui se vivent. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un rythme qui n'est pas un rythme humain, qui est un rythme qui est beaucoup trop rapide, où l'être humain est pris dans une espèce de nasse comme ça, et il n'a plus le temps de se poser, il n'a plus le temps de regarder, il n'a plus le temps d'écouter. Et moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est ralentir ce rythme. C'est revenir à un rythme plus lent, plus respectueux du cerveau humain, même ne serait-ce que du cerveau et du corps humain. Et c'est ça que j'aimerais, et c'est ce que j'essaie de vivre moi. J'arrive, ou quand je marche sur le chemin de Compostelle, parce que c'est ce que je viens de découvrir là depuis 2 ans, je reviens à un rythme qui est magnifique pour moi, qui est mon rythme à moi, avec être dans la nature, dans ses sensations, dans le présent, vraiment habiter le présent. Et ça, ça me parle beaucoup.
J'aime cette notion du rythme. Hein, le rythme, on l'a partout, dans le battement du cœur, dans les montées de sève autour de nous, dans les arbres. Ton rythme à toi, comment tu rythmes tes journées? Comment est-ce que tu rythmes tes mois entre activité professionnelle et activité personnelle?
Alors, c'est un compromis. Je sais que, par exemple, j'ai des gros salons comme le salon Ecobio à Colmar ou comme Marjolaine. Donc là, je suis pragmatique, c'est-à-dire je prévois la quantité d'objets que je souhaite faire. Je prends le temps de les faire bien en amont pour ne pas être à la bourre. Et je sais que c'est des moments assez intenses. Mais même au milieu de cette production, j'ai besoin d'avoir un petit peu de recul pour pouvoir avoir entre guillemets de l'inspiration. Parce que l'inspiration ne peut pas arriver dans l'urgence, c'est pas possible. Donc j'arrive au milieu de cette grande tension de fabrication à avoir des moments où je dis bon, je prends du recul. Et je laisse venir. Et puis, sinon, j'essaie de faire en sorte que ma vie soit le plus équilibrée possible entre activité très, très rapide et puis des moments où je souffle, où je respire, où je marche. Et c'est là que l'inspiration peut venir.
Quelle est ta vision de l'avenir ?
Le mien, je le vois ouvert, avec des nouvelles choses qui arriveront dans ma vie. J'ai envie d'évoluer jusqu'au bout de ma vie. Je vois ça comme ça. Alors, je travaillerai, je pense, assez longtemps parce qu'un une retraite d'artisan, c'est pas terrible, je pense. Mais je me vois continuer d'évoluer, d'apprendre, de découvrir, de m'émerveiller. L'avenir de la planète, eh ben moi, j'espère que j'ai grand espoir dans les hommes, en fait. Parce que je pense qu'il y en a qui ne voient rien, puis il y en a qui sont très conscients. Et j'ai de l'espoir. Franchement, j'ai de l'espoir. Sachant que la planète, elle continuera même sans nous. C'est la race humaine qui craint. Mais je suis pleine d'espoir et je refuse de me laisser empoisonner par la radio, la télévision, les informations qui nous envoient du poison matin, midi et soir. Et ça, je ne veux pas de ça. Parce qu'il y a des très belles choses et des très bonnes choses qui se passent. Il y a des gens qui se bougent. Voilà. Je suis pleine d'espoir, sincèrement. Et de relativement tranquille.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, est-ce que je peux parler de Pierre Rabhi ?
Tu peux.
Alors, est-ce que je peux raconter une anecdote drôle ?
Tu peux.
Alors, il y a une douzaine de 13 ans, je tenais un magasin de vêtements en coton bio dans le 12e. C'était un magasin qui appartenait à des copains, mais c'est moi qui gardais le magasin, qui m'occupait des clients. Et puis je vois arriver un petit monsieur accompagné d'une grande dame, et ce petit monsieur cherchait des pyjamas bio. Et vu la taille de ce monsieur, je me permets de lui dire: monsieur, excusez-moi, j'espère ne pas vous choquer, je vais vous proposer un pyjama, mais c'est une marque allemande et il taille grand, donc à mon avis le 14 ans va vous aller. Alors, le 14 ans était un peu petit, donc on a opté pour le 16 ans. Je commence à lui préparer l'ourlet, parce que c'était moi qui faisais les ourlets. Et l'ami qui gère la boutique me prend à part dans l'arrière-boutique, me dit: mais tu sais qui est là ? Je dis non, mais c'est Pierre Rabhi. Donc voilà, j'ai eu l'honneur de faire l'ourlet de pyjama de Pierre Rabhi. Et je n'avais pas, enfin, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je connaissais pas son visage. Donc voilà, j'ai discuté avec Pierre Rabhi, je lui ai parlé de ses chaussures qui avaient été dans le Sahara parce que je trouvais qu'elles avaient une tête pas possible, ces chaussures. Voilà, c'était... Donc ça a commencé comme ça. Après, j'ai un peu travaillé chez Nature et Progrès, donc je l'ai aussi rencontré. Et puis après, je reçois la newsletter des Colibris, et puis Kaizen, je l'achète de temps en temps. la revue. Donc c'est un fil conducteur comme ça depuis très très longtemps en fait.
Qu'est-ce qui te plaît dans le message véhiculé par Pierre Rabhi, par Les Colibris ou par Kaizen aujourd'hui? Quel est, toi, le message que tu entends et quel est l'intérêt ou quel est le... pourquoi est-ce qu'il fait résonance et écho en toi?
Alors, il y a la première chose, c'est l'écologie, le respect de la planète. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est leur évolution depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a une école qui s'est créée. Donc, et il y a une écologie humaine aussi, c'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus que de l'écologie au sens de la nature, on parle de l'écologie relationnelle. Et je pense qu'on ne peut pas parler du respect de la planète sans parler du respect de la communication entre êtres humains. Et ce que j'aime, c'est cette évolution-là. C'est qu'on en arrive à parler d'écologie relationnelle. Et c'est ça qui me touche vraiment beaucoup. Parce que j'ai assisté à des réunions avec des personnes qui étaient dans l'écologie à bloc, des super militants, mais qui se tapaient sur la tête, c'était épouvantable. Je disais, il y a une incohérence là. Et la cohérence est en train de venir, et ça, c'est ça que j'aime.
Alors dans Colibri, il y a cette légende, hein, ce petit oiseau qui, avec son petit bec et sa goutte d'eau, essaye d'éteindre l'incendie. Kaizen, c'est un mot japonais qui parle du changement, le changement bon. Et toi, est-ce que tu te considères comme une de ces actrices, acteurs du changement? Et quelle est ta part, quelle est ta goutte d'eau, et quel est le changement que tu essayes d'incarner dans ton quotidien?
Moi, je pense que je donne ma petite goutte d'eau dans la mesure où quand j'accueille les personnes dans mon atelier, je les respecte. Je respecte leur espace, je respecte leurs paroles, je suis beaucoup à l'écoute, je les accompagne. Je travaille beaucoup avec des personnes handicapées mentales. Pareil, je suis... ma petite goutte, c'est ça, c'est que les personnes arrivent à se centrer sur elles-mêmes, qu'elles soient respectées dans leur intégrité, qu'elles arrivent à se centrer. Et donc, si elles peuvent se centrer, après, elles peuvent de nouveau s'ouvrir à l'extérieur. Et ma petite goutte d'eau, c'est ça, et le sourire qui naît sur leur visage, pour moi, c'est aussi la petite goutte d'eau. C'est à leur permettre d'être joyeuses ou d'exprimer ce qu'elles ont à exprimer en toute liberté, sans jugement. Voilà, ma goutte d'eau, elle est là. Je dirais que c'est une écologie relationnelle ou une écologie humaine. C'est ma petite goutte d'eau.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
L'avenir, c'est créativité toujours. Toujours plus puissante, je pense. Marcher sur le chemin de Compostelle pour pouvoir prendre du recul, pour être le mieux avec moi-même, donc le mieux avec les autres. Et puis, m'exprimer par tous les supports dont je dispose. Et ce que je vois, c'est que les personnes à qui je montre mes créations, j'apporte un sourire, une réflexion. Il se passe quelque chose. Les personnes qui arrivent sur mon stand, c'est du sourire, c'est du silence, et elles le disent, ça apporte de la paix, de la tranquillité, de l'enfance, de la réflexion. J'entends plein de jolies choses que je note, parce que ça passe vite. Donc voilà, mon avenir, c'est de toute façon, c'est la créativité. C'est le début de l'interview et c'est la fin d'interview, c'est ma créativité.
C'est presque la fin de l'interview, c'est vrai que je vais revenir sur cette phrase « La créativité anime ma vie ». Donc est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre, je parle sur le plan économique, de sa créativité? Parce que ça fait rêver finalement beaucoup de gens se mettent la barrière en se disant toujours la contrainte économique, comment faire pour vivre dans un système qui n'est pas du tout évident, où il y a toujours cette contrainte de gagner sa vie. Donc on peut la gagner en étant créatif.
Oui, on peut la gagner. Je ne gagne pas des milliers des cents. Je sais que je ne vis pas que de ma créativité. Je vis parce que, comme tu disais tout à l'heure, je transmets, j'ai des élèves. Et c'est ça aussi qui m'aide, ça me donne une base financière solide. Et la créativité, la vente de mes productions vient ensuite. Voilà, je mets les deux. Ce qui me permet de m'ouvrir aux autres, parce que la créativité, c'est un travail intérieur, très solitaire. Et les animations, c'est un travail, c'est une ouverture vers les autres. Donc je fais ce va-et-vient et résultat, je gagne correctement ma vie. Je vis à la campagne, mon choix c'est ça. C'est que je peux me permettre de faire ce que je fais parce que j'ai choisi, et nous avons choisi avec mon compagnon, de vivre à la campagne de façon très simple. Et ça nous convient très bien. On vivait en région parisienne avant. Et quand j'ai pris le tournant, on est parti à la campagne parce que... C'était raisonnable et c'était bien. Et moi, je suis vraiment heureuse de vivre comme ça. Je n'ai pas énormément de biens matériels, mais je suis vraiment heureuse.
Merci Sophie.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.